Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous savez que depuis le 29 octobre, on a ouvert la période de ratification, donc depuis qu'ils ont signé. Et cette ratification va se faire par soit la voie parlementaire, soit le référendum. 11 pays, à ma connaissance, ont décidé sur les 25 d'organiser un référendum. Mais il faut que le 1er novembre, tous les États aient dit oui. Alors, de l'utilité de lire les protocoles, ce qui ne se trouve pas dans le traité constitutionnel. Parce que nos amis, bien-aimés chefs d'État et de gouvernement, ils ont octé le texte que vous avez sous les yeux le 18 juin dernier. Ils ont dit que si au 1er novembre 2006, sur les 25, 20 ont dit oui, et que les 5 autres ont des difficultés, j'ai comme le sentiment de provoquer quelques difficultés. Enfin bref. Eh bien, alors ils vont se réunir. Et donc là, on peut faire un petit peu de politique fiction. Il faut avoir dans les 5 qui ont des difficultés, qui sait? Peut-être que si c'est l'Irlande et le Danemark, on va leur refaire le coup qu'on leur a fait. Vous rappelez, le Danemark, on leur a dit, ah, c'est vraiment pas comme ça qu'on fait quand on vote en Europe, on doit toujours dire oui. Hein? Donc on les a repris pour commencer. Quand les Irlandais ont dit non, c'était plus cynique. Et j'en parle avec beaucoup d'amertume parce que celui qui l'a dit était le ministre belge des Affaires étrangères. Il a dit, c'est scandaleux, ils ont reçu tant d'argent. Et donc, ils ont été priés de recommencer. Donc, ça peut arriver comme ça. Bon, si c'est les Britanniques qui disent non, on ne va pas dire ils sont contre le texte, on va dire ils sont contre l'Europe. C'est parce qu'ils sont Britanniques, c'est pas parce que le texte est mauvais. Tout le monde sait bien que les Britanniques, ben, quand il y a du bar sur la Manche, ils considèrent que le continent est isolé. Il y aura un référendum aux Pays-Bas. Et tous les observateurs s'accordent pour dire qu'il y a une probabilité que le non l'emporte. Les Pays-Bas, ce n'est pas un grand pays, ce n'est pas parce que c'est un Belge qui le dit, hein. Ce n'est pas quand même un très grand pays, mais c'est un pays fondateur. C'est un pays fondateur. Et c'est quand même, sur le plan économique, pensez au port de Rotterdam, hein, c'est important. Et puis bon, mais si la France dit non, qu'est-ce qui va se passer? Alors voyons vite pour terminer les conséquences du non, les conséquences du oui. Les conséquences du non. Alors, on nous dit, ben, ça va être la crise. Ah ben oui, c'est sûr. Chaque fois qu'on dit non au pouvoir, c'est la crise. Parce que les référendums, c'est pour dire oui. Mais plus sérieusement, est-ce que vous ne pensez pas, quand le 13 juin dernier, 200 millions d'électeurs inscrits sur 350 millions ne sont pas allés voter, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est déjà la caractéristique majeure d'une crise? Quand près de 60% des électeurs ne font pas assez confiance dans les institutions, ne s'impliquent pas assez dans les institutions, vous ne trouvez pas que c'est dans la crise? Vous ne pensez pas qu'ils auraient dû s'en occuper? Moi, j'étais stupéfait. On a plein d'éditoriaux aujourd'hui qui nous expliquent pourquoi il faut oui. Mais il n'y a pas eu de réflexion de ceux qui pensent pour nous tous les matins à France Culture, à France Intox, à France Inter, sur ces 60% de citoyens qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas trouvé de raison suffisante pour aller. Donc la crise, certainement, on l'a déjà. Le chaos, la mort de l'Europe, allez, toutes les conditions de la stabilité et de la permanence des institutions sont réunies. Si on n'adopte pas ce texte-ci, Rome, modifiée par l'acte unique, modifiée par Maastricht, par Amsterdam et par Nice, sont là. La Cour de justice des communautés européennes continue à fonctionner. Le Parlement aussi, le Conseil des ministres aussi, la Commission de même. On a simplement un texte adopté. Et pourquoi? Mais parce qu'il ne fait pas consensus. Parce que si on réfléchit un instant, un texte auquel on donne l'importance d'une constitution, vous ne pensez pas que ça doit faire 70-80%? Que si c'est à la marge, ce sera de toute façon Parce que si en France, où le non l'emporte, celui qui ne l'emportera pas représentera de toute façon plus de 45% des voix. Un texte qui ne fait pas consensus, un texte qui divise au lieu de rassembler, ne mérite pas d'être institution. Et donc je crois qu'à partir de ce moment-là, la première chose à faire, en tout cas c'est ma suggestion de sortie de crise, c'est de reprendre tout ce qui dans ce texte fait consensus, les petits points positifs, et d'en faire un sixième traité, en attendant que les temps soient mûrs pour avoir une constitution. Parce que je trouve que, ou bien on n'est pas modeste assez, ou bien on est victime d'une véritable offensive politique, qu'on peut nous imposer une constitution, et qu'on a par exemple des motivations aussi contradictoires pour refuser l'Europe sociale que celles qui sont à l'origine de l'attitude britannique, de l'attitude scandinave ou de l'attitude des pays de l'Est européen. Si les temps ne sont pas mûrs, ne nous infligeons pas un texte qui va durer. Parce que la conséquence de cette unanimité pour le changer, c'est qu'il va durer. Si le oui l'emporte, les pouvoirs pour lesquels nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et nos parents se sont battus pour que les communes, les départements, les régions, l'État puissent agir afin de réguler et de redistribuer. Comment défendrons-nous encore avec un article 5 qui réduit les fonctions de l'État à la loi et l'ordre? Comment défendrons-nous les services publics avec un traité constitutionnel qui ignore? Comment défendrons-nous, nous défendrons-nous contre la mondialisation néolibérale avec un traité constitutionnel qui ouvre toutes grandes les portes de l'Europe aux règles de l'OMC? Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est cette démocratie européenne où nous n'avons pas la possibilité de modifier les décideurs, de les changer, nous, citoyennes et les citoyens, si ce oui l'emporte. Alors moi, pour conclure, je voudrais vous inviter à lire un autre texte, à lire un texte qui a été écrit il y a quelque temps déjà, en 1793, par des gens qu'on considère généralement comme des furieux, avec quand même beaucoup de sagesse, quand ils nous disaient qu'un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer la Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Je vais vous faire part pour conclure d'une petite réflexion tout à fait personnelle, mais vous allez voir, on ne part pas sa vie privée de ce qu'on fait, de son métier. Il y a quelques semaines, le père que je suis était très ému d'assister à la prestation de serment de ma fille comme avocate devant la cour d'appel de Bruxelles. Il commence donc sa carrière. Et vous direz, il pourrait quand même penser à autre chose à ces moments-là, mais j'ai pensé ceci en la regardant prêter serment. Si cette constitution est adoptée, toute sa vie professionnelle, elle la passera sous l'empire de ce texte. Et je me suis dit, c'est non. Merci.